Nous avons vu la dernière fois que, à partir de la parole devient ce que tu es, que la morale, c'est du moins le nom qu'on emploie chez les Latins ou l'éthique chez les Grecs, n'est pas pensée comme une série d'obligations qui s'imposeraient à nous de l'extérieur. De telle sorte que la question serait, et c'était notre première question, que dois-je faire en consultant d'une certaine façon simplement des prescriptions extérieures. Nous avons dit que pour Thomas d'Aquin, dans la suite d'Aristote, mais en réalité aussi dans la suite de Platon et de Saint-Augustin, la morale est pensée au contraire comme le déploiement de la nature humaine. Donc un certain déploiement de l'être. Tous les commandements que nous donne Dieu ne sont pas des commandements qui s'imposent simplement de l'extérieur avec le danger d'une sanction, mais sont là pour nous révéler le fond de notre être et, si vous voulez, la ligne de fructification de notre être. D'où l'inversion que j'ai pu faire, vous savez, je disais, au lieu de dire, comme on dit quand on est soumis à un despote, « vos désirs sont des ordres », eh bien là, il faut dire que ces ordres sont des désirs. C'est-à-dire que les ordres de Dieu, pour Thomas d'Aquin, vous voyez, correspondent à des désirs qui sont au fond de nous-mêmes. D'ailleurs, je pense, puisqu'on a une personne supplémentaire qui vient de Communion et Libération ici, Don Giussani, le fondateur de Communion et Libération, insistait sur ce qu'il appelle les exigences du cœur. Vous voyez, l'enjeu de la vérification d'une vie chrétienne, c'est d'abord de se mettre à l'écoute, non pas de ses petites envies, non pas de ces choses transitoires, passagères, mais des exigences qui sont au fond de notre cœur. Et c'est répondre aux exigences du cœur qui est fondamental. Maintenant, attention, ces exigences du cœur, on ne les atteint pas simplement par l'introspection, vous voyez, solitaire. C'est ça ce qu'il faut bien faire. Quand on dit souvent, voilà, c'est pas parce que j'ai un peu peur que ce que je dise corresponde finalement à ce qu'on trouve aujourd'hui, genre, écoute ton cœur, écoute tes envies. Vous voyez, c'est ça, laisse tes désirs s'épanouir, etc. Bon, ça, c'est horrible. Mais forcément, les choses les plus horribles sont aussi des récupérations d'autres choses, des déformations de réalité. Et alors, bien sûr, pour savoir ce qu'il y a au fond de nos cœurs, parce que c'est très difficile, parce que vous voyez, c'est refoulé. C'est refoulé la plupart du temps. Ouais. C'est même refoulé par la notion de refoulement. On voudrait nous faire croire qu'au fond, ce qu'il y a au fond de nos cœurs, vous voyez, c'est... le désir de coucher avec toutes les filles, vous savez, c'est le freudisme, c'est ça. Au fond de vos cœurs, vous avez inventé des trucs, des dieux, des machins, mais en fait, ce que vous voulez, c'était au départ coucher avec votre maman, et puis après coucher avec tout le monde, mais vous avez inventé des trucs, parce que vous voyez bien que... Et c'est ça qui serait le... Enfin, ça, c'est pas au fond de nos cœurs, c'est sur les affiches. Et le type, il est quand même très bête d'avoir dit que notre inconscience était la chose qui était la plus consciente qui soit. Non, ce qu'il y a au fond de nos cœurs, on voit bien que ce n'est pas ça. Mais vous voyez, il y a des strates qui viennent le recouvrir. Il y a des tas de choses qui viennent le recouvrir. Bien sûr que par exemple, l'homme va désirer la femme. En cela, Freud a raison. C'est quelque chose de fondamental, ce qu'il appelle la libido. Mais à quoi ça... Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière cela, au fond? Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas déjà sous prétexte de jouissance, en fait, vous voyez, une ruse divine, ouais, qui nous conduit vers des choses, vers l'image peut-être de Dieu. C'est un peu ce que nous dit la Genèse. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que notre inconscient le plus profond? Qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs? C'est pour ça qu'on a besoin d'une tradition, pour nous le dire, on a besoin de la raison pour le découvrir, mais on a besoin aussi de la révélation. Alors j'y reviendrai, mais mon cours, c'est un cours de philosophie plutôt. Mais là, je pars de la théologie parce qu'elle nous donne des enseignements qui valent aussi pour la philosophie. Donc vous voyez, c'est au fond de nous, mais ce qui est au fond de moi, je ne peux pas y accéder comme ça. Vous le savez très bien d'ailleurs, vous venez dans ces cours, et c'est en écoutant vos professeurs que vous découvrez des choses qui sont au fond de vous-même. Enfin, moi, je le présume. Vous voyez ? Et le signe de ça, c'est que vous souriez. Vous voyez ? Alors, regardez, Eleanor, là. Elle est tellement d'accord avec ce que je viens de dire, elle sourit. Parce que la joie, c'est le signe que vous avez compris quelque chose. Mais vous savez, vous lisez un livre, et puis vous vous dites, « Ah, c'est ce que j'avais toujours pensé !» En fait, vous n'avez jamais formulé, hein, c'est pas vrai. Mais c'est très étonnant, c'est que la découverte, le sentiment de la découverte, même de la plus grande nouveauté, de ce qui fait événement, même pour vous, dans la connaissance, curieusement, l'événement, donc la chose la plus neuve, renvoie à quelque chose aussi d'immémorial en nous. Et entre en résonance avec les profondeurs de notre cœur. Vous voyez, on nous dit « Ah, mais c'était ça ce que j'attendais depuis toujours. » En fait, vous découvrez à ce moment-là que vous attendiez ça depuis toujours. Vous ne l'attendiez pas. Vous ne vous y attendiez pas que c'était ça que vous attendiez. Vous comprenez ? C'est ce que je veux dire. Moi, c'est la structure même de la découverte. D'où d'ailleurs les constructions a posteriori, vous voyez, de dire... Un homme rencontre une femme, vous voyez, après il dit « c'était la femme de ma vie, j'étais fait pour elle ». Vous voyez, reconstruction a posteriori, c'est-à-dire « j'étais fait pour elle », comme si dès le départ j'avais été fait et que je devais y avoir cette rencontre. Et pourtant, dans cette rencontre, quand vous regardez le nombre de contingences qu'il y a eu pour que vous puissiez vous rencontrer, vous voyez, ça aurait pu être quelqu'un d'autre au niveau du monde, vous le voyez bien. Et en même temps, on est obligé de tenir... Vous voyez, ce sentiment de résonance, de... Enfin, vous voyez bien que ça ne suffit pas, parce qu'au bout d'un moment, la résonance, ça dure un certain temps. Après, vous voyez qu'il y a des efforts aussi pour maintenir. Donc, c'est très... Merci. Cette chose-là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que quand j'insiste sur... C'est ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, c'est le fond de notre être qui se déploie. Malgré tout, ça n'est pas simplement par une sorte d'introspection individuelle ou d'écoute de mes envies, etc., que ça se passe. J'ai besoin, pour découvrir ce fond, qui est aussi un fond humain, de l'expérience des autres hommes, de la raison, et même, parce que tout ça est recouvert par des couches, vous voyez, d'envie passagère, de pseudo-désirs qui ont été téléguidés par la publicité, par le monde mondain, par... Vous voyez, bah, pour sortir de tout ça, j'ai besoin d'aide. Hein. Je ne peux pas y arriver tout seul. D'accord ? Donc c'est, ça, je voudrais juste le préciser pour pas qu'il y ait de confusion sur cet aspect-là. Mais vous voyez bien que s'il s'agit d'une fructification de l'être, si l'essentiel de la morale est là, alors... Cela veut dire, cela nous renvoie, disons, à une affirmation métaphysique fondamentale qui est le fait que l'être est bon. Et que le mal n'est pas un être. Vous voyez, ça c'est un point fondamental, parce que vous pourriez penser que, justement, au contraire, l'être en lui-même... ne serait pas bon. De plusieurs façons. Soit parce que vous pensez qu'il y a le bien et le mal. Voyez, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Vous savez, c'est la croisée des chemins. Vous êtes à croisée de deux chemins. Il y a le chemin du bien et le chemin du mal. Si vous pensez comme ça... au niveau métaphysique, l'image peut valoir, si vous voulez, jusqu'à un certain point, mais si vous pensez comme ça au niveau métaphysique, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes même pas métaphysicien, en fait. Hein. Vous êtes un gnostique. Vous êtes en train de penser qu'il y a deux principes, un principe du bien et un principe du mal. Oui. Ah, le diable, on va en parler. effectivement. Sans qu'Éléonore, tout de suite, elle s'interroge sur ses fréquentations. Mais le diable, alors? Bon, mais... Non, non, mais on essaie notre fréquentation à tous, vous le savez bien, donc c'est ça que je veux vous dire. Mais... Donc, faut... bien sûr, c'est important de s'interroger. On peut, c'est une affirmation très forte, métaphysique et théologique, et tout à fait thomasienne, et tout à fait conforme à l'enseignement de l'Église, on doit même aimer le diable sous un certain rapport. Sous un certain rapport. Alors la question, c'est quel rapport ? On doit l'aimer, on doit l'admirer sous un certain rapport. Bon, c'est précisément ça qu'on va essayer de voir. Alors, je repose la question. Hein. Si vous pensez qu'il y a un chemin du bien et un chemin du mal, quel est le problème qui se pose ? Oui, Claire ? Ah oui, alors première remarque, effectivement, la liberté serait pensée comme pure indétermination. Ça, c'est une remarque très profonde que vient de faire Claire, malgré son jeune âge. J'ai 20 ans quand même. Bon. C'est vrai, oulala, c'est vieux. Bon, alors malgré sa grande beauté... Et là, elle va dire, bah non, je suis moche quand même. Non, elle l'a pas dit là. Bon, alors, non, mais c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire. Elle vient de dire que si effectivement la question se pose comme le choix entre deux chemins, donc je marche, mon élan c'est la marche, mon mouvement naturel c'est la marche, puis tout d'un coup j'ai deux chemins, ça veut dire que la marche est neutre, elle est moralement neutre, d'accord ? Et que ma liberté serait moralement neutre, elle n'aurait pas de tendance spontanée vers le bien. Il faudrait que je décide ou je fasse un choix ou un effort pour aller prendre le bon chemin. Et alors, elle a raison, parce que si tel était le cas, à ce moment-là, on ne pourrait pas dire que la morale, c'est le déploiement de l'être. C'est-à-dire qu'en fait, la marche, marcher, ce serait marcher sur le chemin du bien. Parce qu'il y aurait encore un autre chemin sur lequel on pourrait marcher. Donc vous voyez, ce ne serait pas dans la continuité du mouvement naturel. Vous voyez, si notre mouvement naturel, si notre liberté, le mouvement naturel de notre liberté, il s'agit de déployer un mouvement naturel de notre être, donc notre liberté tend naturellement vers le bien. Vous êtes d'accord ? C'est ça ce que vous vouliez dire, hein ? Et c'est très juste, c'est très pertinent. Ça, c'est déjà une remarque très forte et ça va être constitué justement la deuxième partie du cours. Mais avant, donc je ne vais même pas aussi loin que vous pour commencer, Claire, je vais dire une chose plus basique. Si je dis ça, ça veut dire que j'accorde au mal une positivité. Le mal serait un chemin. Vous savez, le Christ dit « je suis le chemin ». Et si le mal est un chemin, ça veut dire que le mal... est un autre Christ, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est un chemin, il y aurait plusieurs chemins. Et ce qui est sans doute d'ailleurs ce que veut faire croire le malin. Mais s'agit-il d'un chemin ? Est-ce qu'il y a une positivité ? Est-ce que je peux accorder une positivité au mal ? Si je lui accorde une positivité, vous voyez, bah déjà, c'est pas si mal. C'est un chemin. Il y a quand même un chemin, là, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Quelle serait la bonne image, par exemple ? Est-ce qu'une image plus appropriée... Je ne suis pas en train de dire cette image, hein, elle est absolument inappropriée. Elle peut avoir une valeur métaphorique, mais elle n'a pas de valeur métaphysique, c'est ça ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que, du point de vue de la métaphore, je peux dire « je mets devant toi deux chemins, celui de la vie, celui de la mort, celui... » Mais est-ce que le chemin de la mort, déjà, est un chemin ? Si c'est la mort, c'est que vous ne cheminez plus. Hein. Bon. Donc, même quand il dit ça, Moïse, je fais référence au Deutéronome, c'est quand même, il faut bien voir que ce n'est pas la même chose. Il y a un chemin où on chemine, il y a un chemin où on ne chemine plus, parce qu'il y en a un qui est celui de la mort. Bon. Donc, on voit bien qu'on est poussé à aller plus loin. Donc on ne prend pas le mauvais chemin. On dit quelqu'un, c'est une métaphore quand tu dis il a pris le mauvais chemin. Donc quelle serait l'image qui conviendrait le mieux métaphysiquement? Oui, Pablo? Oui, mais alors si on garde l'image d'un chemin, c'est ça ce que je veux dire.
Oui? Un chemin avec des petits cailloux.
Un chemin avec des petits cailloux. J'essaye de comprendre, Victoire.
On est sur le chemin du bien, mais il y a des embûches. Quoi.
Ah, voilà. Oui. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Mais si vous mettez des petits cailloux, c'est beau aussi un petit caillou. C'est bon un petit caillou. Moi, j'aime bien un petit caillou. Oui, Laura? Alors il y aurait le chemin, et puis au milieu du chemin, il y aurait des trous, quoi, des poches de vide, et on tomberait dans le trou. Il n'y a pas de chemin, oui. Ça, vous avez raison. Le mal n'est pas un chemin. Alors, ça voudrait dire quoi? Si je dois prendre une image, je pourrais dire, le mal, c'est de se casser une jambe, par exemple. Alors là, vous ne pouvez plus avancer, il n'y a plus de chemin, si vous voulez. Ou alors de verser sur le côté, et il n'y a plus de chemin. Et ça, c'est des mots. Parler du chemin du mal pose un problème, vous voyez. Donc, un mal, c'est de cet ordre-là. Maintenant, cet ordre-là. Juste une remarque. Lorsqu'il s'agit de parler du mal, nous sommes toujours en défaut. Et c'est un peu comme quand il s'agit, et c'est ce que suggère Pablo, qui est tout de suite allé du côté de la métaphysique, mais c'est quand il s'agit de parler du néant. Dès que je dis le néant, j'en fais quelque chose. À la limite, même, je vous dis le néant, vous représentez un espace vide. Mais le néant n'est pas un espace vide. Un espace vide, c'est quelque chose encore. Vous comprenez? C'est difficile, non? Oui?
Mais quelle serait du coup l'image qui aurait une valeur métaphysique, justement? Est-ce que c'est juste le chemin du bien avec le fait que le mal, c'est le fait de s'arrêter?
L'obstacle, voilà, ce qui vous entraîne, ce qui vous empêche d'aller sur ce chemin, voilà. Mais il n'y a pas un autre chemin, c'est ça ce que je veux dire. Pas d'autre chemin. Ça, c'est une illusion, justement. Précisément, l'illusion du malin, au sens où on voudrait nous faire croire qu'il y a chemin là où il n'y en a pas, en fait. Oui? Ah, oui. C'est vrai qu'elle est petite et elle est en plus... là. Oui, c'est ça, et puis elle est derrière.
Le mal, sinon, c'est une impasse, parce que du coup, il est venu
sur un truc. Une impasse, voilà, c'est aussi ça, voilà, une impasse. Tout ce qui peut un mal, ce serait soit tout d'un coup, effectivement, un mur qui vous empêche d'avancer, soit... Mais enfin, bon, il y a une positivité du mur encore, j'aime bien les murs. Je vous dis ça parce que symboliquement, vous avez toute une imagerie qui était très forte d'ailleurs dans les années 60, 70, même dans les chants d'église. Il faut abattre les murs, abolir les frontières. Vous connaissez ces trucs-là, vous avez déjà entendu ça. Abattons les murs, abolissons les frontières. Et donc le mur, alors c'est vrai qu'il y a saint Paul qui dit que Jésus a fait tomber le mur de la haine entre les Juifs et les païens, mais le mur, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il n'y a de maison que parce qu'il y a des murs, avec une porte. Oui. Un monde sans mur, c'est un monde sans intimité. Oui, donc, il faut toujours faire attention à ce que toutes ces imageries-là sont vraiment insupportables. Au bout d'un moment, vous savez, on les pousse tellement dans un sens. Imaginez l'absence totale de frontières. Ouais. Ou alors l'ouverture, vous savez, le culte de l'ouverture. Il faut être ouvert. Il y a une très belle phrase de Claudel dans une de ses 5 grandes odes, celle qui s'appelle d'ailleurs « La maison fermée ». Et il dit à un moment « J'ai trouvé la clé, c'est la clé qui ferme ». C'est pas mal. Autrement dit, on est tellement dans la dispersion, on est tellement... C'est bien aussi de pouvoir... Vous voyez, parce que le Christ dit aussi, va dans ta chambre, ferme ta porte, voilà, et parle au Seigneur qui est là dans le secret. Vous savez, donc, faire attention à être tout le temps dans l'ouverture. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire, non, ce qui est bien, c'est la fermeture. Je suis en train de vous dire, faites attention, réfléchissez, quoi. Attention au slogan. L'ouverture totale, c'est harakiri, quoi. Vous êtes vraiment un type ouvert. Voilà. Ça, c'est l'ouverture. Bon. Donc, vous voyez, non, les frontières, c'est important. La peau, c'est important. Le vêtement, c'est important. Pour qu'il y ait révélation, justement, il faut aussi Et donc, faut faire attention. Donc, la remarque qu'on doit faire en premier lieu, c'est, et c'est ça la grande affirmation de la métaphysique, en fait de la philosophie de l'être, c'est « malum non est aliquid ». Le mal n'est pas aliquid quelque chose. Sachant que aliquid veut dire quelque chose au sens aussi une autre chose, c'est-à-dire une chose posée à côté des choses. Une chose parmi d'autres. Parce que si je fais cela, si je dis cela, j'accorde au mal une positivité d'être. Et à ce moment-là, je tombe dans l'idée qu'il y a un bon principe, un mauvais principe, et que le monde ici-bas est la composition d'un être bon et d'un être mauvais. Voyez, mais l'être en soi, si vous voulez, serait neutre, moralement. Vous comprenez, hein? Ou alors, il y aurait deux lettres bons et deux lettres mauvais, mais ils seraient mêlés en nous. Donc, on trouverait cette idée de neutralité de l'être. Mais si l'être est neutre, à ce moment-là, il va falloir, c'est un peu ce que disait Claire, si vous voulez, il va falloir donc le valoriser. Donc, neutralité de l'être, neutralité morale de l'être, il va falloir le valoriser par quelque chose de l'extérieur qui n'est pas de l'ordre de l'être. Et on tomberait exactement dans ce que dénonçait Nietzsche, vous voyez, le règne d'une valeur qui vient contraindre ou s'opposer à la vie. Est-ce que l'être est neutre moralement ou est-ce que l'être est bon? Voilà, c'est ça la grande question. Mais si l'être est bon, à ce moment-là, le mal est de l'ordre de quoi? Alors, j'ai une autre possibilité, une autre erreur possible. L'être est bon, en fait, il n'y a pas de mal. C'était la thèse, vous savez, c'est la thèse de beaucoup de pseudo-sagesse. Le stoïcisme, vous vous souvenez, c'est un peu ça. Ce que tu appelles le mal, c'est du mal au niveau local. Si tu changes ta représentation, tu verras que, en fait, ce qui est une tâche à cet endroit, dans l'immense tableau du cosmos, participe à une harmonie. Donc, en fait, quand tu crois qu'il y a du mal, c'est une erreur de représentation. En fait, il n'y a pas vraiment de mal. Alors, on retrouve ça, ce stoïcisme, on le retrouve dans le bouddhisme aussi, où on vous dira, si tu souffres, c'est pas parce qu'il y a des choses tellement mauvaises dans le monde, parce que le monde, en fait, est une illusion, c'est que tu es trop attaché aux choses du monde, donc si tu vis dans l'extinction du désir, parce que tu désires des choses, c'est pour ça que tu souffres, dans l'extinction du désir, à ce moment-là, tu n'auras plus mal et tu verras que le mal n'est qu'une illusion. Vous avez aussi une secte protestante américaine qui s'appelle la secte de la Christian Science. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça. C'est très intéressant. C'est une femme qui avait fondé ce mouvement. Et la Christian Science, c'est un mouvement, vous savez, où elle disait à partir de la Bible, à partir de la sagesse, vous voyez, biblique, elle disait en gros, le mal n'est qu'une illusion. Dès à présent, nous pouvons vivre au paradis. Et il s'agit de transformer nos représentations, de comprendre que tout ce qu'il y a ici n'a pas vraiment d'être parce que ça passe. Et déjà, vous voyez, par un travail sur de détachement, vous êtes déjà en Dieu. Et vous savez, c'est très tentant, hein, ça. Donc, vous voyez, deuxième possibilité, hein, soit le mal est de l'ordre de... est un être à côté de l'être. Et donc, l'être est neutre et il faut le valoriser. Mais on tombe dans ce problème d'un dualisme, d'accord ? Dualisme total qui va aboutir justement à ce dualisme de l'être et de l'obligation, de la vie et de la valeur. Vous me suivez, hein ? Vous avez compris, hein, qu'on est dans notre sujet, on travaille là-dessus depuis plusieurs séances, hein, donc c'est ça ce qu'on essaye maintenant, on essaye d'arriver à des synthèses, à une affirmation métaphysique forte. De l'autre côté, on pourrait dire, bon, l'être est bon, mais alors le mal n'existe pas, d'accord ? Bon, n'a pas d'être, donc ça n'est qu'une illusion. Et là, vous n'êtes pas dans un dualisme, vous êtes... donc quelque chose qu'il faudrait appeler une sorte de monisme, mais parménidien, vous voyez, comme chez Parménide. Parménide disait, l'être est, le non-être n'est pas, il n'y a pas de mouvement, parce que le mouvement, ce serait du passage du non-être à l'être, mais du non-être, rien ne sort, donc ce n'est pas possible. Et donc, vous savez que Parménide affirmait l'existence de l'être comme une sorte de pure sphère immobile, immuable, etc. Et il avait du mal à penser, en fait, ce que Aristote, ou enfin Platon d'abord dans le Sophiste, et puis Aristote vont penser comme l'être en puissance. Hein? Ce qui n'est ni du non-être, ni de l'être actuel, mais vous voyez, cette potentialité dans l'être qui permet le devenir. Vous voyez, l'actualisation de la puissance étant justement le devenir. Et c'était difficile de penser en termes d'être, justement, le devenir, parce que, vous voyez, on est dans une zone qui est entre l'être et le non-être, et pour Parménide, il n'y avait rien entre l'être et le non-être. L'être est, le non-être n'est pas, et du non-être, rien ne peut sortir, comme être. Vous voyez ? Donc, on peut penser l'être en puissance, mais alors qu'en est-il du mal ? Vous voyez, voilà ce que va dire la grande... C'est que le mal existe, mais ça n'est pas un existant. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Le mal n'existe qu'en tant qu'il vient priver quelque chose de ce que cette chose devrait avoir. Vous savez que le mal est dès lors pensé comme privation. On dira, pour expliquer ce qu'est vraiment une privation, on dira que c'est une privation d'un bien, privatio boni, debiti. C'est-à-dire d'un bien dû. Privation, sous-entend, hein, d'un bien dû. Pourquoi est-ce qu'on ajoute privation d'un bien dû à un être ou à une nature? Pourquoi est-ce qu'on dit ça, d'après vous? Ce qui en fait vient expliquer ce qu'est une privation, hein, parce que sinon, ce serait, vous voyez, normalement on devrait dire c'est la négation d'un bien dû, ou l'absence d'un bien dû, d'accord? Privation, c'est toujours de quelque chose qu'on devrait avoir, parce qu'on est privé, d'accord? C'est pour ça que le mot privatio boni debiti donne un aspect de pléonasme à la phrase, hein, c'est comme si on disait deux fois la même chose. Bon, alors, oui? Exactement. Ce qui est inscrit dans notre nature, d'accord? C'est pour ça que c'est un mal. Mais ça veut dire quoi? Prenez un exemple justement où il y a une absence, mais ce n'est pas un mal.
Par exemple, pour l'homme, ce n'est pas une privation de ne pas avoir des ailes.
Exactement.
Pour un oiseau,
c'est ça. Exactement. Pour un homme, ne pas avoir d'ailes est une absence, mais ce n'est pas une privation. Ce n'est pas une privation parce que ça n'est pas dû directement à sa nature. Alors, c'est très intéressant parce que l'exemple que prend Pablo, c'est un exemple qu'une conception, je dirais, transhumaniste va nier. Parce que dans le transhumanisme, toute absence est pensée comme un manque et comme une privation. Ne pas avoir d'aile, c'est une privation, parce que l'homme... Et vous voyez sur quoi ça se fonde, hein, parce que l'homme est d'une certaine façon toute chose. Oui, mais il l'est par son intelligence, pas par... Vous voyez, il ne faut pas que ça se passe physiquement, vous vous souvenez, bon. Et alors, à cause de ça, on va prendre tout comme un mal. À tel point que même ne pas être Dieu, par exemple, apparaîtra comme un mal. Ah ben oui, vous êtes privé de quelque chose, hein. Ne pas être femme pour un homme, ne pas être, vous voyez ? Et tout ce que je n'ai pas, finalement, m'apparaît comme une privation mauvaise, voilà. Comme un manque. À partir de là, et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, c'est la grande erreur de Leibniz, qui dit que le fait que la créature soit limitée, et non pas illimité comme Dieu, correspond à un mal qu'il appelle, non pas un mal moral, vous voyez, parce que ce serait absurde, là. Non, on serait tous pourris parce qu'on n'est pas Dieu, bon. Mais ce qu'il appelle un mal métaphysique. Et il y aurait le mal moral, mais il y aurait une sorte de mal métaphysique fondamental qui serait le fait de ne pas... Mais vais vous rendez compte, si vous appelez ça un mal, en réalité, vous êtes pour la destruction des créatures. Sous prétexte, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie question, par exemple. Est-ce qu'un âne peut désirer devenir un cheval? Une question fondamentale, c'est pas moi qui la pose, c'est Thomas d'Aquin, dans des pages célèbres. Est-ce qu'un âne peut désirer devenir un cheval? Qui a dit non? Bon, allez-y, pourquoi ne faites pas l'âne?
Parce que sa nature est déjà complète.
Parce que sa nature est d'être âne, voilà, oui, ça, je suis d'accord avec vous, exactement. Et ce serait quoi, donc, de devenir cheval pour l'âne?
Un surplus.
Non, ce ne serait pas un surplus, justement. Et ouais, il se perdrait, ce serait sa destruction, dans sa nature même. Voyez, on pourrait prendre comme une augmentation de l'âne, c'est pour ça que je parle du transhumanisme, une augmentation de l'âne, ce qui est en fait sa destruction, parce qu'il détruit sa nature. Ça n'est pas une véritable augmentation dans sa nature, ce n'est pas un perfectionnement de sa nature, c'est un changement de nature, donc une destruction. Vous voyez, on serait dans, vous savez, dans ce cas où quelqu'un vous dirait, voilà, si voilà, vous pouvez devenir roi d'un royaume, avoir énormément d'argent, mais la condition pour cela, c'est que vous oubliez absolument tout ce que vous êtes, ce que vous avez été, etc. Mais si vous acceptez ça, ça a déjà eu lieu, puisque c'est quelqu'un d'autre que vous qui deviendra ce roi. Et c'est, disons, une proposition qui, en vous offrant quelque chose, en fait, vous détruit, cherche votre destruction. Vous comprenez ça? C'est très important parce que cette chose-là, ça veut dire que toute acquisition, tout perfectionnement que vous pouvez avoir n'a de sens pour vous que si c'est un déploiement de votre être. C'est très important. Imaginez que vous pensiez une divinisation. Vous voyez, vous êtes au ciel, vous entrez dans la gloire, mais la condition de cette gloire, c'est que vous êtes une sorte d'être angélique. Vous n'êtes plus humain. Vous perdez tous vos souvenirs. Ouais, vous ne vous souvenez plus de personne. Vous êtes dans une sorte de béatitude, etc. De, je ne sais pas moi, de amnésique. Ce n'est pas possible. C'est votre destruction. Si vous êtes glorifié, c'est vous-même tout entier avec ce que vous êtes comme homme. Avec votre identité, avec votre mémoire, avec votre histoire. Et si même la condition historique est essentielle à l'homme, si la temporalité est essentielle à l'homme, alors la vie éternelle est encore une vie qui déploie une certaine temporalité spirituelle. Pas la temporalité qu'on connaît ici-bas. Ce que je dis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Thomas d'Aquin. Vous voyez? Si le devenir fait partie de la créature, à ce moment-là, la vie éternelle n'est pas la disparition du devenir, parce qu'à ce moment-là, comme créature, on serait détruit. Mais le passage à une plénitude dans le devenir, où le devenir n'est pas le passage d'un manque à l'acquisition de quelque chose, mais on passe d'un surcroît à un autre surcroît. Et on n'est plus dans une logique du manque, mais dans une logique du surcroît. Et il y a encore un devenir au ciel. Soit dit en passant, ce qui nous laisse entendre qu'il y a un devenir au ciel, c'est le Christ lui-même, puisqu'il nous dit qu'il y a plus... Le devenir du ciel dépend même de la conversion des pécheurs sur la terre. Vous voyez, c'est incroyable. Il y a plus de joie parmi les anges pour un pécheur qui se convertit. Vous voyez, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la joie. Mais il y a un surcroît de joie à cause de cet événement, qui est un événement qui a un impact sur l'éternité. C'est l'événement éternel, la conversion du pécheur. C'est éblouissant. Donc, vous voyez, faites très attention quand vous pensez à un parachèvement, etc. Ça doit toujours prendre la forme d'un déploiement de votre être, de votre nature. Si la grâce ou la gloire détruisait la nature, ce serait monstrueux. Non. Pour ça, la grande affirmation, la grâce ne détruit pas la nature, la gloire ne détruit pas la nature, grande affirmation de Thomas d'Aquin, même la gloire, hein. C'est-à-dire que vous serez encore plus humain au ciel. En Dieu, vous serez encore plus humain. Sinon, si vous pensez que vous êtes passé dans un état qui n'a rien à voir avec votre condition, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça équivaut au néant. La vie éternelle devient pour vous le néant. Et c'est pour ça que vous avez du mal à y croire, vous avez raison. Vous devez voir tout ce qui vous semble beau ici-bas, tout ce qui est... Vous voyez, tout ça, ça y est, en mieux. D'ailleurs, regardez les psaumes, hein, ils vous parlent d'être ensemble autour d'une table, de chanter, de... Mais c'est ça aussi. Ça doit être une vie humaine glorieuse. Il ne faut pas que... Vous voyez, qu'on se... D'ailleurs, c'est ce que fait le Christ ressuscité, hein, de fait. Hein. Je l'ai déjà dit plein de fois, il mange, voilà, il commente les Écritures, etc. Mais il y a quelque chose, vous voyez, où il faut reconnaître que c'est l'humanité même qui est ressuscité. Sinon, vous voyez, ça devient l'irruption de quelque chose qui vient détruire, et donc c'est une destruction. Voilà. Alors, vous vouliez dire quelque chose, Pauline ? Alors, on pourra en parler, mais l'injustice est une forme de mal, de toute façon, bien sûr. Sauf que là, c'est plus large. Alors, je vais juste reprendre ce qu'on vient de dire. Hein. Mais c'était très important, parce que la remarque de Pablo pouvait dire, bah oui, mais non, le pas avoir des ailes, pour l'homme, c'est toujours un manque, ou c'est toujours une privation, voilà. Et puis après, moi, je vais dire, bah moi, comme homme, ne pas avoir d'utérus, ou vous, comme femme, ne pas avoir de testicules, voilà, c'est une privation, ah, que j'aimerais avoir des testicules, etc., chanterait la femme et l'homme, ah, que j'aimerais avoir un utérus. Mais vous voyez bien que quand vous cherchez cela, vous êtes déjà dans la négation de votre nature et donc vous cherchez un bien qui n'est pas le vôtre et donc qui correspond à la destruction de ce que vous êtes et non pas à sa fructification. Vous voyez l'importance hein, de comprendre hein, le bien dans l'ordre de l'être et dans l'ordre du déploiement d'une nature, d'un être spécifique. Alors, deuxième chose, vous avez l'air dubitative, Marion. Ah, oh, c'était pas un manque pour vous. Non, c'est... je vous savais que Marion, parce que c'est la... Elle est tellement féminine, Marion. Mais... Non, je sais... c'est un test. bon, alors... ouais. Comme moi, j'ai beau avoir du ventre, mais on ne m'imagine pas avec un utérus. Donc, ce que l'on pourrait dire, vous voyez ce que dit Thomas d'Aquin, c'est que, par exemple, une pierre ne voit pas. Elle n'est pas douée de la vue. Mais ça n'est pas un mal pour la pierre. D'accord ? En revanche, qu'un être humain ne soit pas doué de la vue, c'est un mal. Là, c'est une privation de quelque chose qu'il devrait avoir. C'est un mal. Et alors, vous pouvez faire entrer toute la compassion que vous voulez, parce que vous voyez, le problème aussi de la compassion, d'une certaine forme de compassion, qui est la compassion destructrice de notre époque, hein, compassion destructrice du siècle, c'est de faire passer des mots pour des biens, parce que vous avez peur que les gens ne se sentent pas bien. Les gens, t'es aveugle, mais c'est pas grave, non, t'es pas aveugle, tu vois différemment. Tu vois différemment. Non, c'est un mal. Oui, tu es non-voyant. Oui, mais non-voyant. Malvoyant, voilà, c'est un malvoyant, c'est un malentendant. On dit mal, hein, mais vous voyez, mais on n'ose pas aller jusqu'au bout de... Non, il y a une privation, il y a une privation. Vous voyez, je peux, vous pouvez avoir un... Vous pouvez tolérer, vous devez tolérer, vous devez aimer des personnes homophiles. J'aime pas dire homosexuel, vous savez pourquoi, mais bon, je... Mais, homophile. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que ces personnes-là sont privées quand même de quelque chose qui est la polarité vers l'autre en tant qu'autre, qui est l'autre sexe. Il y a une privation, là. Il y a une privation, on n'y peut rien. Et si on commence à dire non, c'est une autre forme de pratique sexuelle, bah, c'est un problème. Et ici, c'est pas... Et à nouveau, hein, je ne suis pas en train de dire peut-être qu'il faut avoir autant de charité à leur égard qu'à l'égard de personnes qui sont aveugles, sourdes. Alors, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ce n'est pas du tout ici une accusation ni une condamnation. Mais c'est simplement, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont cons, vous n'allez pas dire ils ont une autre forme d'intelligence. Ouais, vous voyez tout de suite, quoi. La bêtise existe comme privation. Donc, il n'y a de privation que par rapport à quelque chose que l'on devrait, qui est dû à une nature spécifique. D'accord ? Ce qui est dû à l'homme n'est pas la même chose que ce qui est dû à la pierre. D'accord ? Et de la même façon, ce qui est dû à l'homme n'est pas dû non plus, n'est pas ce qui est dû à l'oiseau. Et la remarque de Pablo, c'était de dire, voilà, qu'un oiseau n'est pas d'aile, c'est une privation, c'est un mal, mais que l'homme n'est pas d'aile, ça n'est pas un mal. D'accord ? Oui ?
Mais est-ce que ma voiture, c'est de partie de ma nature ?
Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, vous voyez, là, vous posez le problème pour la voiture, mais vous auriez pu dire, Jérémy, effectivement, l'avion. J'ai pas d'aile, mais est-ce que quand même je pourrais pas prendre l'avion ? Bien sûr. Mais ça, c'est deux choses différentes. Bon. La question, c'est en quoi... Parce que là, vous avez un critère pour essayer de penser aussi le progrès technique, forcément. En quoi la voiture peut être un bien ? Oui. Et c'est certainement pas un bien en soi-même. C'est-à-dire que l'homme aurait toujours rêvé de rouler à 200 km/h sur des autoroutes. Vous voyez, dès qu'il est né, vous voyez, l'homme, il a pensé dans les grottes déjà. Son rêve, c'était, vous voyez, il était face à des paysages grandioses, mais ce qu'il voyait, c'était des autoroutes. Vous voyez, il voulait qu'on bétonne, qu'on bitume. C'était son rêve. Ça, il voyait un épanouissement là-dedans, vous voyez, dans les autoroutes. N'oubliez pas hein, que c'est quand même un certain progressisme prétend cela, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous savez qu'on a même relu les mythes anciens en inversant leurs valeurs. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du mythe d'Icare. Autrefois, Icare, c'était un mythe qui voulait nous montrer que vouloir voler, c'était de l'ordre de la démesure et qu'au fond, quand vous essayez de voler, vous sortez de la nature humaine, c'est normal que vous vous noyez. Vous avez ce magnifique tableau, la chute d'Icare, de... C'est de Bruegel, où vous avez un immense paysage, il y a la mer, mais il y a des gens, vous savez, qui sont en train de labourer, qui sont en train de travailler, ils mènent une vie complètement humaine. Et quand vous regardez bien le tableau, il y a deux petits pieds qui sortent de l'eau. Et la force de Bruegel, c'est d'avoir très bien compris le mythe. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé, car, mais en plus, personne n'en a rien à foutre. Parce qu'en fait, ça n'intéresse tellement pas les hommes qui font vraiment des choses humaines que de voler. Donc ça ne les intéresse pas. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a réussi, on a eu une technique, on a créé des moteurs puissants qui étaient capables de soulever tout d'un coup des choses dans les airs. Alors, il fallait bien écouler ces stocks hein, de moteurs, de trucs. Donc on a fait des avions. Et après, on a dit, l'homme, depuis toujours, a rêvé de voler. Et maintenant, ça y est, il va... Voilà. Donc ça, c'est une erreur. Et déjà, quand vous dites ça, vous rompez l'équilibre métaphysique qui pense le bien comme déploiement d'une nature, puisqu'à partir de ce moment-là, vous êtes potentiellement illimité. Donc tout manque, enfin, tout ce que vous n'avez pas vous apparaît comme un mal, et donc vous allez jusqu'à l'éclatement de votre nature. Mais donc il y a une erreur métaphysique hein, derrière le transhumanisme. Alors, je reviens à la question que pose Jérémy, qui est une question très profonde. Vous savez, répondre à la question que pose Jérémy, c'est-à-dire en quoi l'automobile peut être un déploiement de la nature humaine, vous voyez, c'est une question très profonde. Ce qu'il faut dire ici, c'est que il y a quelque chose qui relève de la nature humaine, qui est la capacité de l'homme d'invention. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui est positif, vous voyez, produire une voiture. Deuxième chose, la voiture, elle est censée déployer, vous permettre une plus grande sociabilité, un plus grand rapport au monde. Si vous avez une voiture parce que ça vous permet d'être utile à la société et aux vôtres et à votre famille, etc., à ce moment-là, vous voyez, ça fait partie de ce bien-là. D'accord ? C'est un déploiement du bien, et alors il y a une légitimité à cela. Aujourd'hui, même quand vous êtes, ce que vous a d'ailleurs montré Mailleul d'une certaine façon, qui est peut-être pas sage, vous voyez, même quand vous êtes un pro-écologie hard, vous voyez, vous avez une voiture. Vous pourriez ne pas avoir une voiture, mais voyez, lui, il dort dans sa voiture, et puis il va d'un endroit à l'autre pour essayer de voir des expériences alternatives que font les gens. Mais il a une voiture, bon, vous pourriez lui dire, vas-y à pied. Mais le problème, c'est que c'est devenu difficile, parce qu'un des problèmes du monde moderne, c'est qu'il a détruit l'environnement qui nous permettrait encore de faire certaines choses. Vous voyez, par exemple, les Amish vont à cheval hein, avec leur buggy. Vous savez, ils ont des petits trucs, ils vont à cheval, ils se déplacent à cheval. Mais dans les routes du Lancaster County, ou de, vous voyez, il y a des routes qui sont aménagées exprès, parce qu'ils sont nombreux, pour qu'ils puissent passer à cheval. Aujourd'hui, c'est devenu difficile, bref. Donc, il faut réfléchir. Je veux pas donner. Je pense au niveau des principes. Après, il faut essayer de réfléchir comment ça se passe. Mais il est certain qu'il y a des tas de choses que nous avons que la mode, mais aussi la constitution de la société rend de plus en plus indispensables, mais qui en fait ne sont pas de l'ordre du vrai déploiement de notre nature. Et que aujourd'hui, si avoir un téléphone portable devient quelque chose qui est d'une certaine façon, ne pas avoir de téléphone portable devient une privation, si j'ose dire, voyez, donc un mal. C'est uniquement dans la mesure où vous êtes obligé d'avoir un téléphone portable pour vraiment accomplir, voyez, le déploiement de votre vie humaine, c'est-à-dire votre vie sociale, votre vie... Voilà. Et il se peut qu'on crée une société où de plus en plus, ça devienne obligatoire. Vous comprenez? Donc il faut penser cette question-là de manière dynamique, parce que notre nature, elle est historique, et qu'il y a des choses qui n'étaient pas des privations autrefois, qui peuvent devenir des privations aujourd'hui, en raison de la constitution de la société. Oui ?
Est-ce que notre nature est un bien ? Est-ce que c'est peut-être plus ça que le transhumanisme ?
Ah bah, de toute façon, voilà, mais vous avez raison de poser la question, mais si vous pensez le bien en dehors de la notion de nature, vous ne pouvez plus penser le bien. Parce que qu'est-ce que c'est que la définition du bien ? Ah oui, parce que ça, c'est une notion élémentaire, mais alors on va revenir. Parce que je suis très content de cette question, Cécile, parce que vous pourriez dire « Notre nature n'est pas un bien parce que toute nature est limitation. » Mais de toute façon, vous serez toujours limité. Même si vous commencez à vous accoupler à un ordinateur, vous êtes limité. D'abord, il faudra vous être encore plus limité à la limite, mais en plus, vous devrez à chaque fois vous mettre à jour, et puis vous chercherez à avoir de... Donc c'est la limitation, ça fait partie du créé. Vous pouvez pas y échapper. Donc de toute façon, sortir de toute limitation, hein, c'est la destruction de la créature. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va définir le bien ? Est-ce qu'on peut penser le bien en dehors de la notion d'une nature, justement ? Parce que c'est quoi la définition du bien ? Oui ?
Saint Thomas d'Aquin dit que le bien, c'est ce qui est parfait, et Saint-Exupéry dit que la perfection est atteinte quand il y a non plus quelque chose. Non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever.
Oui. Je vois pas le rapport, mais... Non, mais pourquoi pas, bien sûr. Non, mais j'ai beaucoup aimé d'avoir la première phrase « Saint Thomas d'Aquin » et après il a dit « Saint-Exupéry ». Mais « saint » ne doit pas s'entendre de la même façon, c'était pas mal. Donc déjà, c'est sa première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, la vraie question est la suivante. Hein. Vous posez une question qui est très intéressante, qui est de croire, est-ce que la finalité, je vous l'avais déjà dit ça, est-ce que la finalité du vivant, c'est la croissance illimitée ? Je vous avais montré que dans le vivant, ce n'est pas la croissance. La croissance est pour la maturité, et qu'il y a un moment de maturité, justement, où l'on est... Voilà, on atteint une perfection, et à ce moment-là, on n'a pas à acquérir de nouvelles choses, mais à exercer les facultés qu'on a déjà. Vous comprenez ? Vous n'avez pas tout le temps, je vous l'avais dit, à acquérir. Vous avez une plume, doigt, puis après vous avez un stylo à encre, puis après vous avez un stylo bille, puis après vous avez une machine à écrire, vous avez un traitement de texte, vous avez un truc. Et à chaque fois, vous acquérez des nouvelles choses et vous pensez que c'est ça. Mais non, en fait, la plénitude, c'est déjà de savoir écrire. Et à partir de ce savoir écrire, tout ce que vous pouvez déployer à partir de là. Et là, vous avez une maturité. n'est pas la croissance sans fin des objets, ni la croissance sans fin de votre corps. Vous voyez, imaginez. Bon.